Bonjour à tous et bienvenue sur la radio RVE, Annick dans l'émission Culturellement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Raphaël Devrette qui va nous parler de la Bergerie Nationale. Raphaël, bonjour.
Bonjour Annick.
Je vais vous laisser vous présenter.
Oui, alors moi du coup je suis doctorant en histoire, j'ai fait mes études à Rambouillet puis à Saint-Quentin, l'université de Versailles-Saint-Quentin, en licence, en master puis en doctorat. Donc j'ai consacré mon master puis ma thèse au domaine de Rambouillet et en particulier à la ferme de la Bergerie Nationale, de sa création à nos jours.
Alors justement, sa création, donc nous savons que nous devons la Bergerie Nationale à Louis XVI lorsqu'il est devenu propriétaire du château et des terres de Rambouillet. Ça s'appelait pas comme ça déjà? C'était une ferme expérimentale.
Ça s'appelait l'établissement rural expérimental. Alors, dans les archives.
Moi, je me dirais, mais ce n'est que moi, vous allez me corriger si je me trompe, si le monarque a fait ce choix, c'est parce qu'il y avait cet engouement de ce retour à la nature des suites des thèses de Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que c'est bien ça?
Il y a tout à fait ça dans la perspective. Rambouillet, c'est un cas unique. On est à la toute fin de l'Ancien Régime. Hein. On est en 1783, quand Louis XVI achète Rambouillet. Il le connaît déjà, hein, le domaine, il vient chasser depuis longtemps. Et puis, dès le printemps 1784, d'ailleurs, il modifie la saison de chasse pour venir sur le site et lancer le chantier de la ferme royale. La ferme est établie au sein du grand parc, donc on est dans un enclos de 1000 hectares, des murs qui font 2,50 m en meulière. Et comme il faut bâtir, il faut faire venir des ouvriers et ils sont largement recrutés dans les villages et les paroisses de Rambouillet et de sa région.
Est-ce qu'on connaît le nom du maître d'œuvre de la création de la bergerie?
Tout à fait, c'est un ministre qui est chargé de tout le chantier royal à Rambouillet. Et du gouvernement du domaine. C'est le comte d'Angevillers qui est directeur des bâtiments et jardins du roi. Et donc, sous sa houlette, il y a plusieurs experts, puisque le projet est à la fois un projet architectural, mais aussi un projet animal, d'élevage et d'agriculture. C'est très intéressant parce que selon les lieux, eh bien, il y a des experts différents. Il y a un architecte en place qui s'occupe aussi de remanier le château. Il y a plusieurs équipes. Donc, pour l'équipe de la ferme, on a deux hommes qui s'appellent tous les deux bourgeois. Le premier bourgeois, il est fermier général du roi, donc il va s'occuper de la gestion des terres agricoles en dehors du parc. Et il y a un bourgeois qui devient le premier véritablement directeur de la ferme. On appelle ça à l'époque l'économe. C'est celui qui s'occupe de l'économie, donc de la gestion de la ferme. Et pour ne pas mélanger les deux, on le surnomme bourgeois de la Bretonnière, puisque la Bretonnière, c'est une terre qu'il a achetée à Béville-le-Comte en Eure-et-Loire. Donc c'est pas un local, mais presque.
Oui, c'est pas très loin, Béville-le-Comte.
C'est hein.
D'Angervilliers, il habitait à Rambouillet, puisque l'actuel palais du roi de Rome était sa demeure.
Tout à fait, c'était le palais du gouvernement aménagé spécialement pour lui.
On a cette création pour un besoin de retour à la nature. Comment et pourquoi cette bourgeoisie, cette noblesse, va ressentir ce besoin de retour à la nature?
Alors on est dans un mélange, il y a la nouvelle tradition rousseauiste, ou en tout cas le courant rousseauiste, donc de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est les promenades solitaires, le culte dans cette nature, qui va fournir aussi une base du romantisme au 19e. Et il y a la vieille tradition antique de la pastorale, donc on retrouve dans les grandes symphonies, dans l'art, dans la peinture, et puis dans les poèmes et la littérature. Donc on essaie le retour à une nature, mais une nature pastorale, une nature d'élevage, où le mouton et les troupeaux sont au cœur du projet. Et il y a une différence, on n'est pas sur un site comme le hameau de la Reine à Versailles, on est sur quelque chose de très très sérieux, puisque Louis XVI espérait faire venir Marie-Antoinette à Rambouillet, mais elle a détesté les lieux et elle a appelé Rambouillet une crapaudière gothique. Donc elle est venue très peu de fois. Il y a tout un lieu intéressant. Et le seul lieu qu'on peut comparer en fait à cette tradition de la fabrique de jardin et de la pastorale dans un genre de retour à la nature, c'est la laiterie, qui s'appelle pas encore la laiterie de la Reine, ce sont les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X qui la feront nommer laiterie de la Reine pour essayer de rallier cet imaginaire, mais en fait elle est jamais venue, elle s'appelait la laiterie, et c'était un lieu très tactique, elle est au croisement du site expérimental et agricole et des jardins. Et
oui,
en fait quand les courtisans faisaient leur promenade, eh bien ils se retrouvaient dans la laiterie pour déguster les produits de la ferme.
De la ferme juste derrière.
C'est ça, donc elle était coupée géographiquement, elle est un peu sur les hauteurs, sur une petite colline, ça c'est pensé exprès pour avoir le vent, et elle est exposée aussi plutôt au sud pour bénéficier de la chaleur et de la sécheresse.
Du coup ça veut dire que quand on était à la laiterie, on avait les odeurs des animaux de la bergerie?
A priori non, puisque d'accord. Le vent est censé balayer les odeurs en dehors des zones, c'est pour ça qu'elle est construite un peu plus loin du château, et tous les lieux d'élevage, que ce soit les chenils, les écuries, la faisanderie et la ferme, sont situés un peu en décalage pour éviter toutes ces nuisances sonore et d'odeur.
Je reviens deux petites secondes sur la laiterie. Au niveau du pavillon de la reine, C'est là qu'il y avait, alors le pavillon de la reine, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous êtes dos à la laiterie, il y a deux pavillons, celui qui est à droite, celui qui est à gauche. Celui qui est à droite, c'est le pavillon du roi. Celui qui est à gauche, c'est le pavillon de la reine. Et dans le pavillon de la reine, il y avait des vaches, il y avait 8 vaches.
Alors ça, c'est la laiterie, typiquement. C'est
d'accord, donc ces vaches, voilà. Donc ces vaches ne faisaient donc pas du tout partie de la ferme.
Si, si. En fait, aujourd'hui, la lecture du site est difficile parce qu'on a 3 institutions. On a le CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux autour du château et des jardins. On a les chasses qui étaient anciennement à l'ONF qui sont devenues une annexe du domaine de Chambord. Et on a la bergerie nationale. Donc ces 3 institutions sont forgées au fur et à mesure. Et la laiterie était liée à la ferme avant d'être liée au jardin. Donc on voit, c'est intéressant, un peu un partage nature-culture sur la gestion institutionnelle du site.
Après, donc on a parlé des animaux, vous avez parlé notamment des moutons. Alors forcément, vous voyez où je veux en venir. Les moutons, tous les Rambouillitains et tous ceux qui sont du coin connaissent le fameux Mérinos. Il n'arrive pas comme ça, ce Mérinos. Il arrive d'Espagne, je crois, c'est ça, à pied. Et pourquoi le roi a choisi cet animal-là plutôt qu'un autre mouton plutôt lambda? Pourquoi le Mérinos?
Alors c'est une vaste histoire passionnante qui remonte au XVIIe siècle. C'est Colbert qui veut améliorer les troupeaux. Donc il fait avec Louis XIV un projet, celui des haras royaux, et celui des bergeries. Celui des bergeries ne verra pas le jour, et ça va être repris par Louis XV, et puis par Louis XVI surtout. Et donc, à l'époque, on cherche à approvisionner les manufactures, qui sont les industries de l'époque. Et pour ça, on doit faire venir les meilleurs moutons lainiers du monde, en tout cas européens de l'époque, et ça se passe en Espagne.
Parfait, bah alors nous allons en parler dans une seconde. Donc bonjour à tous, bienvenue sur RVE Culturellement Vôtre. Je suis avec Raphaël Devrette qui nous parlait de la bergerie nationale, et on était en train de parler du voyage du Mérinos de l'Espagne à la France et à la bergerie.
Le voyage des Mérinos de Rambouillet a défrayé la chronique. C'est une vaste entreprise qui commence tout simplement par un échange diplomatique entre Louis XVI et Charles III d'Espagne, le roi espagnol. Et donc, il y a pendant 2 ans une tractation pour essayer de faire venir ces moutons qui sont très réputés, mais qui sont soumis à un blocage, un embargo. En fait, aucun mouton espagnol ne doit sortir d'Espagne, puisqu'ils ont les meilleures laines. S'ils sortent, on perd le monopole. Et comme Charles III est un descendant de Louis XIV, c'est un cousin de Louis XVI, et il va pouvoir bénéficier de cette filiation pour faire venir un troupeau d'environ 400 bêtes qui sont négociées. Alors c'est très intéressant, les archives sont très précises là-dessus. Il y a un recrutement d'un berger espagnol qui s'appelle André Gil Hernández, qui est à côté de Ségovie, dans les plaines de Ségovie, qui va être chargé de la sélection des bêtes du troupeau. Et elles sont prises dans 10 cabanes. Les cabanes, c'est en fait les élevages. Donc ils sont aux mains soit des grands seigneurs abbés, soit des grands seigneurs espagnols. Donc les plus grands d'Espagne sont dans une association qui s'appelle la Mesta. C'est une sorte de monopole royal fondé au XIIIe siècle. C'est un cas exceptionnel à l'échelle européenne. Et du coup, ça a permis d'avoir ces moutons de qualité qui ne s'appellent pas encore les Mérinos, puisque c'est un nom qui va être donné après le voyage et après le succès des bêtes à Rambouillet. Donc un succès qui est conditionné par le voyage. Donc on est dans les plaines de Ségovie quand ce troupeau est réuni, et il part aux environs du 15 mai 1786, des plaines de Ségovie, il traverse tout le nord de l'Espagne, les Pyrénées, il s'arrête dans les Landes pour la lutte. Donc la lutte, c'est l'accouplement. Et on s'arrête pour être sûr que les brebis prennent bien les béliers. L'été se passe bien, et ils repartent vers le Périgord, vers le Limousin, puis l'Orléanais. Ils passent par Chartres, puis par Rambouillet, ils arrivent en octobre 1786. Et il y a eu quelques pertes sur le chemin, mais tout a été plus ou moins préparé, et comme c'est un troupeau du roi, on pouvait par exemple saisir les prés à bord des villes pour nourrir le troupeau, en tout cas le stocker pour la nuit. Donc on peut suivre aussi un petit peu les dégâts, en quelque sorte, du troupeau tout au long de son chemin.
Alors moi j'aurais 2 questions à vous poser, Raphaël. La première, si ces moutons ne s'appelaient pas Mérinos, comment s'appelaient-ils? Et pour encadrer le troupeau de 200-300 bêtes?
400 bêtes.
Ah pardon, ouais. De 400 bêtes, il devait y avoir des hommes à cheval, des chiens, des hommes à pied peut-être. Alors ce qu'on connaît, les effectifs, voilà.
Oui, tout à fait, on connaît l'équipe. Alors c'est un vrai troupeau transhumant qui arrive, hein. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on trouve en Espagne et puis en Provence à la même époque. Voilà, c'est André Gil Hernández qui est le maître berger, en quelque sorte. Il est avec une équipe de 4 hommes, 4 bergers espagnols. Ils sont avec des chiens de conduite, on ne connaît pas le nombre des chiens de conduite. Par contre, on sait qu'il y a quelques, pas tout, il y a quelques chiens des montagnes, des Pyrénées déjà, qui sont chargés de protéger le troupeau contre le loup. Ils sont très efficaces et utiles le long du chemin, mais une fois arrivés dans le parc de Rambouillet, ils perdent toute leur utilité, puisqu'il y a les murs pour nous protéger des loups, qui sont encore très présents à Rambouillet à cette époque-là.
Alors du coup, comment s'appelait le mérinos avant ?
On appelle ça les bêtes à laine espagnoles. Donc bêtes à laine, puisqu'ils produisent de la laine, c'est pour ça qu'on en veut, et puis espagnols, puisqu'ils viennent d'Espagne.
Donc, comment on a trouvé le nom mérinos ?
Alors il se forge pendant la Révolution, ce terme. Il apparaît déjà dans quelques archives de la Mesta, hein, l'association des éleveurs espagnols, mais c'est typiquement un terme français qui est acclimaté avec le troupeau dans les années 1798-1799. On a deux publications qui parlent de ce terme et qui essaient de le définir. Et mérino, ça voudrait dire le mouton qui voyage. C'est le mérinos transhumant, le mérinos voyageur.
On ne verrait plus 400 brebis et 400 moutons aujourd'hui traverser la France.
Entièrement, mais il y a toujours des transhumants.
Oui, il y en a toujours.
Mais qui transhument par camion du fait d'augmentation du flux routier.
Ces animaux arrivent à la bergerie. Est-ce qu'au départ, il n'y a que, ou est-ce qu'il y a d'autres animaux ?
Il y a toute une ferme. Donc le projet, c'était d'acclimater le plus d'espèces possible, donc le plus de races aussi. Donc, on a un âne de Malte, on a des poules, on a des chèvres angora de Turquie, hein. On a des chevaux, des bœufs pour l'attelage, le travail au champ, et puis bien sûr ce troupeau de bêtes à laine, donc de moutons. Moutons, techniquement, on le dit pas dans l'élevage, puisque le mouton, c'est le mâle castré. Donc il est très peu présent, et la plupart des animaux sont des brebis,
puisqu'on
a besoin de moins de mâles que de femelles. Donc on parle de brebis souvent.
On ne sait pas combien sont morts dans le trajet, puisqu'il y a eu des naissances, du coup pertes et naissances. On suppose que ça devait rééquilibrer plus ou moins la chose. Arrivés en France, quelle était leur utilité à ces animaux dans cette ferme ?
Le troupeau de mérinos, c'est censé être le troupeau matrice pour régénérer les races. On disait comme ça à l'époque. Donc l'idée, c'est que les races françaises sont altérées, donc elles sont en gros dégradées, abîmées.
Pourquoi ?
Ça, c'est la théorie savante qui dit que les petits éleveurs, les paysans, savent mal faire leur travail et qu'ils ne conduisent pas bien les bêtes comme il faudrait. Et donc, ils vont mettre en place tout un nouveau régime. Et Rambouillet doit être l'exemple de ça. Une ferme expérimentale, modèle de l'élevage scientifique, on pourrait dire. Donc, avec un élevage non plus en plein air, mais en bergerie. C'est très intéressant parce qu'on a un des experts du projet qui ressort, c'est Daubenton, qui fait de ses expériences de mérinos en Bourgogne, à Montbard, dans sa bergerie, et qui va en fait prouver au roi que c'est possible d'acclimater des mérinos en France. Et donc, c'est pour ça qu'à Rambouillet, il y a un gros lien avec ça. Et donc, quand le troupeau arrive, il n'y a pas de bergerie à Rambouillet, puisqu'on pense à l'époque qu'on peut se passer de bergerie. Et donc, le troupeau va arriver épuisé de sa grande transhumance, et il a contracté le claveau, qui est une maladie qui touche pas mal les troupeaux à l'époque, et qui se concrétise tout simplement par des inflammations au niveau des mamelles et de la bouche. Et comme le troupeau est en train d'annuler, de mettre bas, et bien ça va poser des problèmes drastiques, et il va y avoir pas mal de pertes d'agneaux à ce moment-là. On est en octobre-novembre 1786.
Très bien, alors je vous propose de faire une petite pause, et puis nous en reparlerons un petit peu de cette perte, et puis ensuite de cette nouvelle augmentation du cheptel. Nous revoilà avec Raphaël Devrède qui nous parlait donc du claveau qui était une maladie chez le mouton mérinos, hein, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Pour ce qui nous concerne, voilà, c'est une maladie qui a touché le troupeau à son arrivée en fait, donc ça a posé pas mal de problèmes. Et en plus de la maladie, ils se sont aperçus que les hivers du nord de la France ne convenaient pas à cette race de moutons du sud de l'Espagne, en tout cas du centre de l'Espagne. Et ils ont aussi été obligés de mettre très très rapidement les bêtes à l'abri dans les fermes du domaine.
Donc en fait, les animaux arrivés ici, si je fais un résumé, sont tombés malades, n'étaient pas adaptés au climat parce qu'ils sont arrivés en hiver, et on les a dispatchés. On a cassé le troupeau, c'est ça ?
C'est ça. Alors ça, c'est normal. Ça tient compte un peu de la révolution scientifique de l'élevage. Je pense que de grands éleveurs le faisaient déjà. C'est-à-dire qu'il faut isoler mâles et femelles pour contrôler la reproduction. Sinon, ils peuvent se reproduire à tout moment de l'année, et ça pose beaucoup de problèmes pour contrôler l'agnelage et travailler le troupeau sereinement. Donc il y a un enjeu, c'était de séparer mâles et femelles. Et pour juguler l'épidémie, les bergers espagnols, a priori de ce qu'on en sait d'après les archives, se sont retrouvés un peu démunis. Et ces bourgeois de la Bretonnière, l'économe de la ferme, qui a mis en place une infirmerie pour isoler les bêtes malades.
Infirmerie, on isole les bêtes malades. Le claveau, qu'est-ce que c'est comme maladie ? Comment la soignait-on ? Et aujourd'hui, est-ce que ça existe toujours ? Est-ce qu'on le soigne ? Et comment ?
Oui, alors c'est une maladie qui est assez répandue jusqu'au 19e siècle. Ça se concrétise par une inflammation des mamelles et de la bouche. Donc ça empêche les agneaux de téter, tout simplement. C'est dû à des problèmes d'hygiène des troupeaux. Donc ça va être régulé, parce que le problème, c'est que là, le troupeau a circulé, il a croisé pas mal d'élevages et de prairies où il pouvait y avoir des éléments, et c'est souvent lié aussi à l'état sanitaire du troupeau. Donc des bêtes qui étaient affaiblies par une marche anormale, même eux entraînés à la transhumance n'étaient pas habitués à faire 1500 km en moins d'un an. Donc ça a aussi été créé par ce caractère exceptionnel du voyage.
Ces Mérinos arrivent à Rambouillet, ils vont rencontrer d'autres animaux de la ferme. Quel est l'objectif scientifique de cette ferme expérimentale?
Le projet scientifique sur les animaux, mais aussi sur les plantes. L'idée, c'est d'acclimater des plantes, de tester les maladies, de guérir les maladies. C'est un projet très intéressant, puisqu'on est dans un moment de crise importante en France à cette époque-là, en 1780, dans la décennie. Il y a des crises frumentaires, c'est-à-dire des crises du blé. Les gens meurent de faim, avec des hivers terribles, où il fait moins 15, moins 20 dans le nord de la France. On sait qu'aujourd'hui que ces crises agricoles et donc climatiques, écologiques, sont une lame de fond pour la Révolution française et les révoltes qu'il y aura à partir de 1789 et pendant des années. Voilà, c'est un moment central. Et on a le roi de France qui décide de mettre son domaine au travail et d'essayer de trouver des réponses pour ces problèmes-là. Ce qui est le cas pour les grains, là c'est l'abbé Tessier qui mène ça sur les îles du château. Donc les îles qu'on voit, elles étaient nues, il n'y avait pas d'arbres à l'époque.
Oui.
Et il y a eu des essais agricoles expérimentaux sur ces îles, sur le blé, sur d'autres espèces végétales.
De ce fait, que s'est-il passé pour cette ferme expérimentale qui s'appelle pas encore Bergerie, hein, vous nous parlerez du changement de nom et d'affectation, on y reviendra. Mais du coup, que s'est-il passé pour cette ferme expérimentale au cours de la Révolution?
Au début, dans les premiers mois, il se passe pas grand-chose. En 1789, c'est assez calme, hein. Les animations sont à Paris, pour parler comme ça, et il faut attendre 1791-92, quand en fait, la Révolution va progressivement mettre un terme à la monarchie absolue, d'abord sous la forme de la monarchie constitutionnelle, et donc là il y a une institution qui s'appelle la liste civile, donc en gros l'État prend possession des domaines royaux et de tous les biens, et va autoriser le roi à avoir une liste de biens et de fonds pour tenir son rang de roi, de prince, parmi les nations européennes et les royaumes européens. Et Rambouillet va intégrer le domaine de l'État à ce moment-là. Et il y a un grand débat, puisque comme la bergerie devient non plus royale, mais nationale, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce qu'on va faire du lieu et du site? Donc il y a un débat, on fait venir des députés sur place. Ce qui tombe bien, c'est que ce sont des députés qui ont adopté le Mérinos entre-temps. Donc c'est des gens intéressés par le projet. Et ils vont le traduire en Révolution, les scientifiques vont rester les mêmes, Daubenton et un des premiers professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle, fondé en 1793. Donc le projet va passer avec tous ces experts royaux, qui deviennent experts révolutionnaires et puis républicains, et le lieu va devenir un site d'importance et va devenir la bergerie modèle pour les années républicaines. Donc c'est vraiment la République qui fonde un nouveau régime aussi agricole et de l'élevage, et Rambouillet va servir de matrice pour par exemple la bergerie de Perpignan, puis celle d'Arles, et puis toute une série, il y en aura entre une dizaine et une quinzaine réparties dans tout l'Empire français, puisque avec la Révolution, les frontières françaises se déploient bien au-delà de celles qu'on connaît, donc on retrouve une bergerie à Trèves ou à Aix, en
avec
Allemagne
les mêmes,
actuelle.
Avec les mêmes animaux?
Avec des mérinos, pas ceux de Rambouillet, mais avec d'autres mérinos.
Alors, d'autres mérinos, c'est-à-dire que s'il y en a qui sont allés en Allemagne, ils sont partis d'Espagne jusqu'en Allemagne?
Voilà, alors soit on a pillé les troupeaux espagnols, parce qu'à partir de 1794, il y a une première invasion française en Espagne, et puis il y a la seconde qui sera menée par Napoléon Ier.
Mmh.
Et donc, pendant qu'on pille l'Espagne, on se charge de piller aussi les grandes cavagnes dont je parlais aussi tout à l'heure, donc ces grands troupeaux espagnols, et on essaie d'approvisionner la France avec. L'idée, c'est de produire de la laine industrielle pour les manufactures.
Alors, du coup, là, on était fin du 18e. Que s'est-il passé sous Napoléon en ce qui concerne la bergerie nationale? Moi, je sais que pour la laiterie, pour le château, il a tout refait. Pour la laiterie, il a mis du marbre partout. Joséphine de Beauharnais a enlevé les bas-reliefs de la laiterie. Elle les a mis à Malmaison. Bon, après, c'est une autre histoire. Pour la bergerie, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, Napoléon Ier connaît de nom le domaine. En fait, il est un peu fan de Louis XVI. Donc, il sait que Rambouillet, c'est un domaine qui comptait pour le roi. Et donc, il va venir. Il envoie d'abord son frère en 1802 chasser. Et comme ça, il repère en fait les lieux. En novembre 1804, il y a la première visite de Napoléon à Rambouillet et il lance un projet d'aménagement d'une bergerie, la première bergerie, qu'on appelle sur le site les bergeries impériales, donc en face de la ferme royale, cette cour carrée, donc il y en aura une en face, et après on n'a pas beaucoup de traces. Les documents ne montrent pas un intérêt particulier pour Rambouillet, mais plutôt pour le projet général autour de la laine et du mérinos.
à la bergerie, il y a un pigeonnier. On en parle dans quelques minutes.
Avec vous plaisir.
De retour dans Culturellement Vôtre avec Raphaël Devrède. Nous parlions de la bergerie et je voudrais bien que vous nous disiez un petit peu, tous ceux qui connaissent la bergerie, j'invite tous nos auditeurs à y aller, connaissent le fameux pigeonnier. Magnifique, très très beau pigeonnier. Il date de quand celui-ci ?
Il date de la construction de la ferme royale entre 1784 et 1788, donc colombier ou pigeonnier.
Oui, peu importe, voilà. Puisqu'on rappelle aux auditeurs que c'est le même bâtiment, colombier-pigeonnier étant le même bâtiment, colombier faisant référence à la colombine, qui est la fiente du pigeon et qui servait d'engrais.
C'est ça, exactement. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir littéralement engraisser les terres, les fertiliser, et le guano, en tout cas les fientes d'oiseaux, sont les plus riches engrais animaux qu'on connaisse.
Un décret de 1789 va interdire l'utilisation des pigeonniers à des fins seigneuriales. Je suppose que c'est à ce moment-là que le pigeonnier de la bergerie cesse son activité, alors que les autres animaux poursuivent leur rôle.
L'histoire des pigeons est très intéressante, puisqu'on a encore trace en 1792 de pigeons dans le colombier, et on apprend qu'ils se font tirer dessus par les paysans tout autour de la région, puisque comme on ouvre les portes du colombier tous les jours, les pigeons sont censés aller chercher leur nourriture dans le pays environnant. Et donc ces pigeons faisaient d'énormes dégâts dans les récoltes, donc ils ont été exterminés progressivement pendant la Révolution, comme une grosse partie du gibier dans la forêt.
La bergerie, qui s'appelait ferme expérimentale, va s'appeler bergerie nationale à partir de quand ?
À partir de la Révolution. Donc bergerie nationale, elle est la matrice des réseaux. Et puis Napoléon reprend ce réseau de bergerie nationale, ça devient les bergeries impériales. Puis elles redeviennent royales sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Et là, on a une petite période qui se ternit, puisqu'il y a le retour des chaises dans le Grand Parc, donc le lieu d'élevage. C'est-à-dire que pendant la Révolution, tout le Grand Parc est alloué à la ferme. Donc elle bénéficie de 500 hectares de culture. Et là, il y a véritablement un boom pour Rambouillet. Les aristocrates de l'époque s'emparent du Mérinos. On a parlé de Joséphine de Beauharnais, c'est une des lobbyistes du Mérinos à l'époque. Il y a toute une série de grands agents de l'État, des grands ministres. On a Fouché qui achète des Mérinos à Rambouillet. Il y a Talleyrand aussi, donc pour parler des grands noms. On appelle ça la mérinomanie. Elle va durer tout le 19e siècle, si bien que Rambouillet va devenir non seulement un lieu où, en gros, les gros éleveurs du nord de la France se fournissent, quelques éleveurs du sud viennent aussi, mais surtout, à partir des années 1840-1850, il y a des éleveurs des colonies anglaises, les anciennes colonies espagnoles, telles l'Argentine ou l'Uruguay, qui vont venir se fournir à Rambouillet en Mérinos.
Ça veut dire que la bergerie est mondialement connue et fournie des Mérinos un peu partout dans le monde.
Alors on peut dire mondialement, moi je dirais impérialement, puisque c'est le monde impérial. Ouais. C'est très intéressant, c'est une géographie impériale. C'est très lié à des surfaces de pâturage. Et c'est une histoire très compliquée, parce que c'est une histoire qui est basée sur la conquête et les violences humaines, puis environnementales, de destruction des peuples et puis de leur économie, de la nature, on va dire. Mmh. Et il y a l'installation de ce bétail. Le Mérinos en fait partie. Donc moi j'ai pu suivre ça à l'échelle du Mérinos de Rambouillet. On a une archive exceptionnelle qui est encore à la ferme. On appelle ça les registres matricules. En gros, c'est tout le listing et la généalogie des Mérinos nés à la ferme. Et donc, on peut suivre depuis 1870, vraiment, toute la généalogie et tous les envois. Donc, j'ai fait aussi cette cartographie impériale. Donc, on retrouve des animaux aux États-Unis, en Argentine, en Amérique du Sud plus largement, en Afrique du Sud, en Algérie coloniale, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a même des envois au Siam, au prince du Siam sous Napoléon III.
Après Napoléon III, nous arrivons sous la Troisième République, Adolphe Thiers, la présidence, la Cinquième aujourd'hui, République. Mm. Que s'est-il passé sous les présidents français ?
Eh bien, c'est pareil, les présidents remettent en place les chasses officielles, et le gibier crée énormément de tensions en ravageant les cultures. Le lapin, jusqu'en 1953, au moment où la myxomatose apparaît dans le Grand Parc, cause des ravages conséquents, et on a des gros problèmes pour nourrir le troupeau. Les deux guerres mondiales vont aussi être drastiques. On perd aussi le bétail, qui est réquisitionné pour notamment le bétail de labour, donc les bœufs, les chevaux qui sont envoyés sur le front. Donc pendant plusieurs années, ils ont du mal à cultiver, puisqu'ils n'ont plus le matériel animal nécessaire. Et pendant la guerre de 39-45, on a un gros problème de génétique aussi, puisque le troupeau est divisé en deux pour les sauver d'invasion allemande. Partie est envoyée en Charente, l'autre du côté de Montpellier. Le troupeau de Montpellier ne reviendra jamais. Donc on perd la moitié du troupeau.
Ils sont morts ?
Enfin, en tout cas, ils sont jamais revenus. Donc on n'a pas. Ils sont pas revenus dans le troupeau. Et ceux de Charente, il y a beaucoup de générations d'agneaux qui meurent aussi. Donc on a un gros problème de régénération du troupeau. Et à partir de ce moment-là, on lit dans la génétique du troupeau ce qu'on appelle une dérive. Et c'est un goulot d'étranglement génétique et une dérive. Donc on a perdu un gros patrimoine à ce moment-là. Et du coup, il y a un autre enjeu, c'est qu'il y a eu l'essor colonial. Mais comme on a vendu les super Mérinos avec leur laine qui était réputée presque pour être la meilleure du monde, c'est retour de bâton. Il n'y a plus besoin du Mérinos de Rambouillet pour améliorer les troupeaux d'Australie ou d'Afrique du Sud. Et il y a un boom des colonies britanniques, et Rambouillet va devenir désuet. Le Rambouillet, je parle du Mérinos. Et donc la bergerie va perdre sa raison d'être qui était une matrice de l'élevage et de l'amélioration des troupeaux dans les années 30-50.
Aujourd'hui, nous savons que c'est un lieu aussi de culture. Comment cette bergerie a repris le dessus pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui ?
Donc c'est très intéressant de suivre vraiment presque parcelle par parcelle la gestion des terres, du territoire. Et on voit que le gibier, c'est vraiment un fléau pour ces économies de l'élevage qui ne sont pas mécanisées, hein, on est dans les années 50-60. La bergerie va se reformuler autour d'une école. Une école de berger d'abord, puis une école de zootechnie pour tous les animaux, hein, les chevaux, les vaches. L'insémination artificielle est développée pour la France à Rambouillet dans la bergerie pendant la guerre. Donc c'est Martial Laplot qui met ça en place à partir de 1943. Il est allé notamment en URSS où là-bas on a beaucoup développé l'insémination artificielle, ça va permettre de développer beaucoup le cheptel bovin après la guerre.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une école ?
Oui, c'est devenu le centre d'enseignement zootechnique et depuis 1955, date de la fondation du centre, c'est devenu une école tout azimut autour des métiers de l'élevage et même plus.
Moi je connais la bergerie, je pense comme beaucoup de nos auditeurs, parce que bon, j'y suis allée, j'étais me promener. Qui ne connaît pas aujourd'hui la bergerie nationale ? Donc il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui à la bergerie. Vous qui les connaissez bien, vous pouvez nous en toucher un petit peu ?
Oui, alors il y a une grosse activité et très très variée sur le site. Il y a toujours cette école qui s'est remaniée, hein, mais on a toujours des formations très très poussées, notamment autour de l'agroécologie. Alors y compris sur des étudiants, hein, des jeunes, mais aussi sur les personnels de l'État, des fermes nationales. Donc voilà, il y a une formation et pour les enseignants et pour les apprenants. Et puis il y a aussi toute une nouvelle dynamique autour de la ferme. Comme le mérinos et les moutons ont beaucoup perdu dans la région, il y a un projet autour de l'agroécologie qui s'est refondé. Aujourd'hui, par exemple, je vais mentionner un des plus inédits, c'est la production de céréales bio et du coup de production de pain de la ferme sur site avec vente sur place.
Oui, parce qu'on peut acheter plein de produits. Hein.
En plus des troupeaux de vaches qui a été converti aussi en bio, donc des Primolstein, il y en a 70 environ. Donc on peut acheter aussi ses yaourts, son lait et ses fromages à la ferme depuis le confinement. Il a fallu s'adapter, encore une fois, la bergerie sait très bien le faire. Donc oui, transformer le lait non plus en yaourt puisqu'on ne pouvait plus fournir les écoles, mais en fromage.
Alors la bergerie nationale aujourd'hui fait énormément d'activités pour tout public, hein, pour les familles, les enfants, les scolaires, les adultes. Plein de choses à voir et à découvrir. Et puis, ils nous écoutent beaucoup, hein, ils nous connaissent bien, on travaille pas mal avec eux. Donc déjà, on va leur dire un petit coucou.
On les salue bien fort.
Et puis, on les invite, nos auditeurs, à aller faire un coucou à la bergerie. Écoutez, Raphaël, je vous remercie beaucoup de cette histoire de la bergerie nationale qui est absolument fascinante. Et le mérinos, on en sait un peu plus. Et puis, on ira acheter des pulls mérinos maintenant.
Hein. Magnifique. J'aurais fait mon travail.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.